French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Expatrié. Nom. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
J'ai pas envie d'appeler ça une faiblesse nécessairement. Il y a toujours un type de faiblesse. Pas de faiblesse, mais genre c'est difficile parfois d'être aussi loin de sa famille. C'est une force d'avoir genre une fratrie genre un peu de partout parce qu'on s'apporte beaucoup de richesses, je dirais. On partage ensemble genre ce qu'on vit au quotidien quand on se retrouve. On a beaucoup d'histoires à se raconter.
T'as moins l'impression de faire tâche quand t'es dans un environnement comme ça. Mais il y a plein d'enfants d'expat français et d'enfants d'expat tout court. Tu t'es moins conscient de ta différence.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite. La CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France, à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Première chose cool, c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue.
Do you know what's special about you?
That I can speak 5 languages.
Oh, that's pretty awesome.
Deuxième truc cool, c'est que l'école, elle peut finir un peu plus tôt qu'en France. Par exemple, la mienne, elle finit à 3h de l'après-midi.
Dans l'épisode précédent, Amélia nous laissait avec ses quelques mots à propos de Montréal. Une ville cosmopolite dans laquelle être biculturel et bilingue est la norme. La sensation de faire tâche à cause de sa différence. Le propos peut choquer alors même que dans notre société adulte, on fait les louanges de la multiculturalité et de la chance d'être bilingue dès l'enfance. Vous écoutez le second épisode consacré à l'histoire de la fratrie Guglielmi qui s'est construite autour du monde et qui reste soudée malgré les quatre fuseaux horaires qui séparent ses membres. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite grandement à le faire. Et là, tout de suite, je vous propose de continuer cette plongée dans leur histoire en compagnie d'Amélia, de Mathilde, de Sybille et de Cyprien. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
T'as moins l'impression de faire tâche quand t'es dans un environnement comme ça.
Mais c'est hyper violent le mot tâche, parce que t'as l'impression de faire tâche par ta différence ?
Au lycée, oui.
Ah ouais ?
Au lycée, oui. C'est quelque chose que je ressentais profondément. Surtout, je pense que c'était lié un peu à ma... Je sais pas si c'est quelque chose qui se dit en français, mais ma performance académique. Ça, c'était quelque chose qui me complexait énormément par rapport à mes camarades. Je sentais qu'il y avait un retard par rapport à eux. Et surtout, genre, j'avais pas envie de me démarquer du tout. J'aimais pas quand on me reprenait sur un mot que je prononçais mal ou quand on me reprenait sur quoi que ce soit ou quand les gens étaient amenés à remarquer en fait qu'il y avait un élément de culture ou une référence culturelle ou quoi que ce soit que je ne connaissais pas. Genre j'aimais pas le fait qu'il y avait un décalage entre moi et mes camarades. Au lycée, je me suis vraiment efforcée d'effacer toutes ces différences et de m'assimiler en fait. Je représentais vraiment l'esprit du All American Kid, tu sais, qui fait plein d'activités, qui est dans des honors classes, qui est en marching band et tout. Genre, j'avais vraiment, je m'étais lancée à fond dans cet environnement. Je pense que c'est pour ça, en partie, que quand je suis arrivée à McGill, j'étais autant fixée sur l'idée de revenir aux États-Unis parce que ça avait un peu été ça toute mon identité pendant des années, tu vois. Mathilde, elle est quelque part où tu t'es pas t'es moins amené à être conscient tout le temps de tes différences. Et ça, je pense que c'est un... En tout cas, ça, c'est mon interprétation. Hein. Mais je pense que c'est une source de soulagement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aux Pays-Bas parce que j'avais beaucoup... J'étais entourée d'étudiants internationaux. Et en fait, après, je pense que pour moi, de revenir en France, c'était presque aussi un défi personnel. Dans le sens où, est-ce que je suis capable de me réadapter, mais même pas de me réadapter, mais de m'adapter à la vie ici et de vivre la vie comme n'importe quel Français ou Française. Même si genre, je sais que la différence avec mes camarades ici, je la ressens aussi, mais c'est plus quelque chose qui me pose problème, en fait. Maintenant, j'arrive à voir ça comme une richesse et en même temps, c'est quelque chose de très épanouissant pour moi d'être de retour en France et d'arriver justement à m'intégrer à la vie ici. Genre, j'arrive... C'est pas forcément... C'est quelque chose... J'ai du mal à mettre les mots dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui me... C'est très satisfaisant, en fait, d'être ici et de sentir que... Enfin, que j'arrive à exister en tant que Française. Surtout, en fait, de me sentir légitime dans mon identité en tant que Française.
Loin de moi l'idée de juger qui que ce soit, mais avouez, est-ce que vous savez vraiment où c'est le Kansas ? Alors c'est quoi d'y grandir ? Comment est-ce qu'on arrive, jeune enfant, préadolescent, et qu'on y devient adulte ?
Californie, c'était un peu plus international et tout ça, mais le Kansas, c'était vraiment très intéressant parce que c'était presque comme dans les films, la high school et tout ça, donc c'était cool de vivre ces choses un peu plus vraiment très américaines, je dirais. Tu sais, il y a les jeux de football américains le vendredi soir avec les cheerleaders ou pom-pom girls en français, la fanfare, la marching band. Puis t'es avec tes amis de l'école et tu regardes ça et genre, c'est vraiment très américain. Ou alors t'as le bal de fin d'année, prom. Là, juste les Américains sont très patriotiques, ce que tu vois pas vraiment en France. Les grandes maisons, les grandes voitures... Thanksgiving, toutes ces traditions vraiment très américaines, je dirais qu'elles étaient encore plus prononcées dans le Midwest qu'elles le sont en Californie. Et quand tu regardes des films genre de high school ou des séries, ils ont toujours ces genres de traditions, les football games, prom, homecoming. Bon, dans la vraie vie, c'est moins glamour que dans les films, mais c'est cool de genre être comme genre montrer des photos aux gens en France et comme regardez, c'est cool, on vit toutes ces choses là qu'il y a pas vraiment en France. Donc ça, c'était cool, je dirais, d'avoir cette expérience. Puis c'est vraiment fun la high school, toutes les activités que t'as en dehors des cours. Genre moi, je faisais partie d'une équipe de sport, genre de course à pied. Donc bah, j'ai jamais été au lycée en France, mais je peux, de ce que j'entends, c'est très différent comme expérience.
Je pense que en fait, quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, et c'est pour ça que quand tu m'as envoyé le mail et que ma mère m'en a parlé, j'étais tout de suite partante pour discuter avec toi, c'est que je trouve que on parle très peu au final des enfants dans l'expatriation. Et mais il y a beaucoup de récits sur la vie de surtout des mamans. Enfin et après ça me semble logique vu que souvent dans le schéma familial c'est on part à l'étranger pour le boulot du père, la mère reste à la maison, c'est un peu elle qui doit faire tout le travail émotionnel pour s'adapter à la vie américaine et tout ça et pour pour adapter le fonctionnement de la famille à la vie américaine. Donc ça, je pense que à juste titre, il y a beaucoup de récits qui sont consacrés à ça. Il y a une grosse place qui est consacrée à ça. Mais je trouve que moi, il y a quelque chose qui me dérangeait quand j'étais ado. Et d'ailleurs, je m'empêchais jamais de le dire à ma mère, c'est que je trouvais qu'il y avait un regard très idéaliste sur la vie des enfants et des adolescents expatriés. Dans le sens où, genre, ma mère racontait ma vie de lycée. Elle racontait mes matchs de foot où je faisais la fanfare. Elle racontait homecoming, elle racontait prom. Et c'était vraiment le récit, tu vois, le cliché de la vie américaine. Et je voyais les commentaires des gens qui disaient « Ça me rappelle Saved by the Bell, ça me rappelle machin, ça me rappelle truc. » Et moi, je suis là, mais en fait, non, c'est ma vie. C'est ma vraie vie. Donc, de un, ça, c'était dérangeant de ce côté, enfin, dans cet aspect-là. Et de deux, en fait, je disais « Mais c'est pas rose tout le temps, en fait. » C'est loin de là. Même, certes, on est plus adaptable parce qu'on est jeune et au niveau de la langue, par exemple, je sais que moi, quand j'ouvre la bouche et que je parle anglais, personne ne se doute du fait que je suis pas américaine d'origine. Mais d'un autre côté, tu fais subir quelque chose de profond et de et de douloureux à un enfant ou à un adolescent quand tu pars en expatriation. C'est un déracinement, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est pas suffisamment dit, ou peut-être juste qui est un peu occulté d'une certaine façon. Parce que l'enfant s'adapte, parce que l'enfant va à l'école, parce que l'enfant apprend à parler anglais comme les Américains, parce que l'enfant a des amis, du coup, bah, l'enfant va bien. Et en fait, bah non. Parce que moi, il y a eu plein de moments dans mon adolescence où j'allais pas du tout. Et je sais que c'était lié, pas entièrement, mais au moins en grosse partie, c'était lié à toutes ces questions que je me posais sur mon identité. Parce que l'adolescence, c'est déjà un moment où tu te poses beaucoup de questions sur ton identité. Et en plus, à cela va s'ajouter tout l'aspect de bah, je me sentirai jamais assez américaine pour les Américains, jamais assez française pour les Français, d'où je viens. Et après, genre, je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents, expatriés ou non, qui se posent ces questions-là, mais je pense qu'elles prennent plus d'ampleur, ces questions, quand t'es expatrié. Et je pense aussi que c'est très déstabilisant, parce que moi, genre, même maintenant, quand on me demande d'où tu viens, je peux pas répondre à cette question. Je suis pas capable. Enfin, tout de suite... faut que je parte faut que je déballe ma vie, ou alors, enfin maintenant c'est simple, je dis juste que je suis de Grenoble parce que c'est une réponse qui me permet une certaine pudeur, mais c'est déstabilisant. Maintenant je vois aussi tout l'aspect, la richesse que ça m'apporte et tout ça, mais c'est un travail que j'ai dû faire sur moi.
Et du coup, t'en as déjà voulu à tes parents à un moment où ça allait pas?
C'est très difficile de bah justement d'en parler avec mes parents, parce qu'en plus c'est un peu un problème de un first world problem d'en vouloir à ses parents d'avoir vécu partout dans le monde, d'avoir voyagé, d'avoir pu faire mes études dans 4 pays différents. Du coup, tu vois, genre, je me sens un peu ingrate si je vais voir mes parents et je leur dis vous m'avez compliqué la vie avec vos choix. Donc déjà je me sens pas trop je sais pas si légitime c'est la bonne expression, mais je me sentirais un peu mal, tu vois, de les culpabiliser pour ça, mais je sais que je leur en ai voulu, effectivement.
Je suis très heureuse qu'Amélia s'exprime sur ce sujet, car elle a raison. On entend surtout des histoires d'enfants heureux racontées par leurs parents qui, eux, s'émerveillent de leur bilinguisme et de leur adaptabilité bien souvent. Amélia nous montre que même en ayant vécu toute sa vie ou presque à l'étranger, ce déracinement lui a coûté. Et en même temps, c'est pas vraiment le cas de ses sœurs. Comme quoi. Alors si j'ai une idée de la réponse d'Amélia, qu'est-ce qu'il en est du reste de la fratrie? Quand on grandit à l'étranger, une grande partie de sa vie, et qu'on se construit donc ailleurs, hors de France, hors du pays dans lequel on est né, ou en tout cas dans lequel on a ses racines, est-ce qu'il est évident qu'on y retournera un jour? Quelle relation est-ce qu'on entretient finalement avec ce pays d'origine?
Je pense pas que c'était évident. Je pense qu'au départ, en tout cas les premières années aux États-Unis, quand on vivait en Californie, normalement on devait rester 3 ans et rentrer en France. Et donc moi dans ma tête, au bout de 3 ans, j'allais rentrer en France puis faire ma vie en France. Et je pense que c'est une fois qu'on a commencé à vivre à Kansas City vers la fin... J'étais comme, je sais pas si j'ai vraiment envie de rentrer en France, mais je pense pas que j'ai envie de rester non plus aux États-Unis, enfin, en tout cas au Kansas.
La décision de venir m'installer à Paris, c'est un peu le fruit de beaucoup de réflexions et puis aussi de décisions que j'ai par la suite pas forcément regrettées, mais qui m'ont permis de réaliser certaines choses. Donc en fait, je pense que je peux tout retracer vraiment au tout début, quand j'ai commencé mes études supérieures, parce que donc j'ai quitté les États-Unis en 2016 pour aller commencer mes études à McGill, à Montréal. Et en fait, c'était un peu un choix par dépit, parce que j'avais pas forcément envie de quitter les États-Unis. J'avais à l'époque vraiment envie de suivre le parcours très traditionnel que suivaient tous mes camarades de classe, tous mes amis de lycée, c'est-à-dire la fac, en ne restant pas chez ses parents, mais la fac très traditionnelle où t'habites dans les dorms, t'as vraiment toute la vie universitaire à laquelle tu penses quand tu penses aux États-Unis. Et du coup, moi, en arrivant au Canada, j'ai un peu ressenti le manque de tout ça. Et donc, à la fin de ma première année, j'ai pris la décision de quitter McGill et de transférer dans une fac au Colorado. Et en fait, en arrivant à Colorado State, j'ai regretté mon choix d'avoir quitté McGill. En fait, je pense que je me suis égarée dans plein de façons différentes, mais d'une certaine façon aussi, genre chaque étape m'a permis de réaliser genre ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et quand j'ai quitté McGill, en fait, et en arrivant à Colorado State, je me suis rendu compte que j'avais finalement bien aimé l'environnement assez international, assez enfant d'expat que constitue l'environnement McGill. Presque tout de suite, je me suis dit, il faudrait que je trouve un moyen de me retrouver dans ce genre d'environnement, voire même d'être en France, parce que je sens que c'est un aspect de moi que j'ai vraiment besoin de retrouver. Et après, j'avais déjà en tête l'idée de revenir en France parce que j'avais vraiment l'envie, en fait, de vivre en France et pas seulement d'y venir passer mes étés. Et je voulais voir ce que ça serait d'avoir une vie ici, en fait.
J'ai considéré l'idée d'aller en Californie de nouveau. J'ai appliqué à des universités là-bas. On était allé à Montréal pour justement voir les différentes universités. Puis ma mère a son petit frère qui vit dans la ville de Québec. J'étais comme, j'ai quand même envie de continuer d'explorer. Et aussi, ce que j'aime bien avec Montréal et cette région-là, c'est que c'est un peu un monde entre les deux. Même si c'est techniquement, comme le Québec, c'est francophone, Montréal, c'est pas mal bilingue comme ville, comme il y a des anglophones et des francophones. Et il y a aussi des gens de tous les coins de la Terre. Et donc, du coup, je pense que c'est vers la fin du lycée que j'ai comme voulu explorer genre un autre coin un peu. C'est pas aussi exotique que peut-être aller en Asie ou à l'autre bout du monde, mais c'est quand même différent, le Canada, que les États-Unis. Donc je dirais, non, c'était pas évident, mais c'est, je pense, au fil du temps.
Est-ce que le fait, en fait, tu vois, de faire partie d'une fratrie qui a l'air très soudée, très aimante, est-ce que pour toi, c'est une force? Est-ce que parfois, c'est une faiblesse? Est-ce que ça t'apporte beaucoup de motivation? Quelle place, en fait, a ta fratrie dans ta vie loin d'eux, finalement?
Alors, je dirais que ma fratrie, c'est plus comme une force, parce que je sais que je peux toujours revenir vers eux. Même si c'est dur de se parler parfois, genre, je sais qu'ils sont là pour moi, et comme quand il y a quelque chose qui cloche, ou pas nécessairement quand il y a quelque chose d'une bonne nouvelle, je sais que je peux partager ça avec eux et qu'ils seront heureux pour moi. Et vice-versa, comme je suis là pour mes frères et sœurs, si quelque chose qui cloche, je suis prête à genre tout abandonner pour comme... Pas tout abandonner, genre partir, mais genre si Amelia, par exemple, a besoin de me parler, ou Sybille, ou même Cyprien, je crée du temps pour genre pouvoir leur parler. J'ai pas envie d'appeler ça une faiblesse, nécessairement. Il y a toujours un type de faiblesse. Pas de faiblesse, mais genre c'est difficile parfois d'être aussi loin de sa famille. C'est une force d'avoir genre une fratrie genre un peu de partout, parce qu'on s'apporte beaucoup de richesses, je dirais. On partage ensemble genre ce qu'on vit au quotidien quand on se retrouve. On a beaucoup d'histoires à se raconter. Puis si j'ai envie d'aller éventuellement genre voir Sybille, par exemple, à San Diego, ou Amelia à Paris, genre je peux aller chez eux, genre rester avec eux, ils peuvent montrer un peu genre là où ils habitent, de leur point de vue. Enfin, c'est quand même vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois des gens que je connais et leurs frères et sœurs sont tous là, ça peut être difficile, parce que je peux pas un week-end prendre ma voiture et aller voir ma sœur pour la journée, par exemple. Donc c'est quand même difficile, mais je dirais qu'il y a beaucoup de points positifs. Ils me motivent tous à continuer d'explorer. Genre, ils sont tous très curieux. Ils aiment tous beaucoup voyager. Enfin, je peux pas trop parler pour Cyprien parce qu'il est quand même assez jeune. Mais ils sont tous vraiment créatifs et intelligents et passionnés et tout ça. Donc, ouais, ils m'inspirent beaucoup.
Au cours de mes conversations avec les membres de cette fratrie, je ressens, du moins chez les aînés, cette urgence, cette importance d'aller vivre ses propres expériences. Si c'est vrai finalement quand on se construit, qu'on vive dans notre pays d'origine ou non, ce désir de liberté géographique me semble encore plus important, encore plus frappant ici. Alors j'ai interrogé Mathilde sur l'influence de ses parents sur l'avenir de sa fratrie.
Je dirais que mes parents, ils nous ont toujours genre appris à genre c'est partager et passer du temps avec nos en famille. Comme je disais, on allait beaucoup en vacances. On prenait genre notre voiture ou au début, je pense quelquefois on avait un camping-car. Donc vraiment genre passer genre des vacances en famille. Donc je pense que ça genre aller faire des aventures ensemble, ça a créé des liens et des souvenirs entre les frères et sœurs. Nos parents, ils ont toujours ils nous ont montré que c'est dur de vivre loin de tout le monde, ça, c'est un peu bouleversant, mais c'est aussi une richesse de découvrir genre, de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça, je dirais que c'est une valeur qu'ils nous ont donnée, qu'on a un peu tous, je dirais, parce que le fait que Sybille, elle soit en Californie, Amélia, qu'elle soit... Bon, Paris, c'est la France, mais on ne vivait pas dans le coin de Paris, donc c'est quand même un nouvel endroit pour elle. Donc je pense qu'ils nous ont quand même inculpé ce désir de genre, découvrir de nouveaux endroits.
Je ne sais pas si on peut parler de la famille ou du moins de la fratrie Guglielmi. Est-ce qu'elle est plutôt internationale, plutôt française de l'étranger? Ou est-ce qu'il serait juste de dire qu'elle s'est carrément américanisée?
Très française. Je connais des familles internationales. J'en ai rencontré pas mal, surtout dans le cadre de mes études aux Pays-Bas. Et je ne dirais pas qu'on n'est pas une famille internationale parce que mes deux parents sont français et que même s'ils ont beaucoup eu cette soif de voyager. Nous, dans notre éducation, dans notre mentalité, on n'a pas forcément beaucoup d'influence internationale. Moi, je dis ça par comparaison avec d'autres familles où j'ai des amis, par exemple, où ils ont un parent d'une nationalité, un autre parent d'une autre nationalité. Et du coup, là, c'est vraiment une famille internationale pour le coup parce qu'ils vont parler trois langues à la maison, alors que nous, non, c'était vraiment un foyer français de base.
Est-ce que je me sens plus américaine ou française? En vrai, j'aime vraiment pas cette question parce que je sais que je suis plus américaine. J'ai vécu, ça fait 13 ans, 14 ans maintenant que je suis aux États-Unis. Donc, obviously, je suis plus américaine, mais j'aimerais me sentir plus française. Et j'aime mon côté français, mais je sais que je suis plus américaine et que je me sens plus américaine que mes frères ou sœurs, oh, mes sœurs, pas vraiment mon frère, mais voilà.
C'est sûr qu'on a intégré certains modes de vie beaucoup plus américains, peut-être dans les valeurs aussi. Après, peut-être que ça, c'est quelque chose qui sera... Enfin, je sais pas si moi, j'arriverai forcément à mettre les mots dessus. Peut-être dans certaines traditions, on a adopté des éléments de culture américains. Par exemple, on ne célébrait pas Thanksgiving il y a 15 ans. Maintenant, on fait un petit truc pour Thanksgiving où toute la famille, petit à petit, s'est mise au football américain alors qu'au début, on n'aimait pas du tout ça.
À mon avis, je me sens plus américain parce que même si j'étais né en France, j'ai grandi aux États-Unis. Presque tous mes copains ils habitent aux États-Unis. Je parle beaucoup l'anglais. Ouais, parce que juste, je suis entouré par les trucs américains tout le temps. J'aimerais bien vivre en France un jour pour quelques années parce que c'est là où j'étais né, j'ai de la famille là-bas. C'est un très beau pays.
Je me marie cet été à un Canadien. On parle des fois, peut-être dans le futur, on irait vivre en Europe parce qu'il a une citoyenneté suisse. Mais on se voit, les deux, on se voit rester au Canada, dans la région d'Ottawa, parce que c'est quand même pas loin non plus de Montréal. Il y a quand même toujours des gens qui parlent aussi français dans ce coin-là, parce que Ottawa, c'est la capitale. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le gouvernement, qui sont bilingues, français, anglais. Après, comme je dis, j'abandonne pas complètement l'idée de peut-être un jour aller vivre en Europe. Je sais pas si ce sera en France, nécessairement, peut-être. Je sais que c'est un peu compliqué de retourner vivre en France quand tu n'as jamais vécu en tant qu'adulte. Parce que j'ai une cousine qui vient de faire ça, puis il y a beaucoup de choses logistiquement qui sont un peu compliquées. Mais ouais, je vois bien rester ici. Genre, je me sens plus à la maison qu'ici, qu'au Kansas, par exemple. Je suis pas mal confortable ici.
Pour moi, j'ai pas forcément un plan ou une idée fixe aujourd'hui, parce que j'ai un peu atteint mon but, en fait, ce qui était le but que je poursuivais depuis des années. Enfin, qui s'est concrétisé, parce qu'au début, enfin, je savais que j'allais finir par faire du droit quelque part. Ça, c'était genre l'idée floue. Et après, quand j'ai quitté le Colorado, mon plan, en fait, c'était finir à Paris. Donc là, j'ai atteint mon but. for the time being. Mais après, j'exclus pas l'idée de repartir un jour, tu vois. Genre, je sais que je pourrais être amenée à repartir. Mais au moins, je sentirais que je repartirais sur des bases plus stables que celles que j'avais avant, parce que j'ai renoué les liens avec quelque chose qui est une partie importante de mon identité. Je regrette rien en soi, mais j'aurais aimé pouvoir avoir ce moment-là plus tôt.
Les derniers mots, je les laisse à Amélia, qui a pris énormément de recul sur tout ce qu'elle a vécu et qui vous livre ceci en guise de conclusion.
Maintenant, je pense que, comme justement j'ai beaucoup réfléchi sur tout ça, je vois aussi que je ne changerai pas en fait la façon dont ma vie s'est déroulée. Je suis consciente de la richesse que ça m'a apportée et je voudrais pas que ça soit... Je voudrais pas que ma vie ressemble à... Ouais, que ça soit différent.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Mathilde, Amélia, Sybille et Cyprien pour leur témoignage et vraiment la générosité de leur partage. J'adresse aussi un merci tout spécial à Isabelle, leur maman, qui m'a aidée à organiser cet épisode et à convaincre chacun de ses participants. Isabelle, d'ailleurs, c'était une des toutes premières invitées de French Expat. En 2019, elle avait été reçue par Laetitia, qui était ma co-hôte à l'époque. Maintenant que vous connaissez une partie de son histoire par ses enfants, vous pouvez découvrir le reste dans cet épisode de 2019. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de celui-ci. Aujourd'hui, c'était donc le troisième volet de notre série sur les enfants d'expats et d'immigrés. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça à la fois poignant et aussi un peu rassurant. En tant que maman, ça m'a confortée dans certains choix et ça m'a aussi apporté de nouveaux questionnements. Je trouve ça très sain. Donc j'espère que ça vous aura plu également. Bon, et du coup, la semaine prochaine, on va rencontrer qui ? Je vous laisse découvrir un petit extrait de notre dernière invitée de cette série spéciale.
Les premiers 6 mois, c'était trop dur parce que je pouvais pas parler anglais. Et donc à l'école, j'ai fait la bise, mais on fait pas la bise. Je me rappelle de rentrer à la maison et dire « Maman, on peut pas faire la bise !»
Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!